Bienvenue sur Psychoshot, votre podcast d'hygiène psychique. Depuis plusieurs années, l'hypersensibilité est devenue une mode, succédant à la grande mode des hauts potentiels. Vous avez dû voir de dizaines de podcasts, émissions sur le sujet, dont l'angle, et dirons-nous, peu scientifique, voire complètement mensonger. L'hypersensibilité est souvent décrite comme le signe d'une intelligence hors du commun, et parfois même d'un super-pouvoir. Malheureusement, c'est plutôt faux. L'hypersensibilité n'est pas le signe d'un QI, quotient intellectuel extrêmement élevé, et ce n'est évidemment pas un super-pouvoir. Ce n'est pas non plus un trouble psychiatrique ou psychologique. Il n'est fait nullement mention de l'hypersensibilité dans les manuels de diagnostic des troubles mentaux. C'est un point extrêmement important, car j'ai lu des témoignages et rencontré des personnes qui me parlaient de leurs souffrances liées à leur hypersensibilité, mais en me présentant des symptômes qui me faisaient plutôt penser à un trouble anxieux ou à un épisode dépressif. Pourtant, l'hypersensibilité recouvre un champ de travaux scientifiques extrêmement intéressant, champ qui vaut bien plus que le battage médiatique qui est fait autour de cette notion. Dans les deux prochains épisodes, notre but sera de revenir sur ce qu'est l'hypersensibilité, comprendre comment l'identifier et parvenir à la gérer. Tout d'abord, revenons à l'origine. La notion d'hypersensibilité a surtout été popularisée par une psychologue américaine, Helen Aron, dont l'ouvrage majeur s'intitule « The Highly Sensitive Person ». Le titre de son ouvrage permet déjà de lever une idée reçue sur cette notion d'hypersensibilité. Les chercheurs qui ont développé ce concept parlaient de personnes hautement sensibles. Pour une raison inconnue, cette notion a été traduite par « hypersensible », ce qui n'est pas du tout adapté, parce que le préfixe « hyper » sous-entend dans sa définition ce qui est extrême, le plus haut degré, ce qui est en excès. Or, l'hypersensibilité, d'un point de vue scientifique, concerne 15% à 30% des individus. Pour éviter les fausses interprétations, il serait donc plus juste de bannir le terme d'hypersensibilité pour parler de sensibilité élevée ou de personnes hautement sensibles. C'est ce que nous allons faire pour la suite du podcast. Alors, comment définir la sensibilité élevée? Les personnes hautement sensibles que j'ai rencontrées décrivent leur haute sensibilité en mettant en avant une série de désagréments quotidiens. Un patient m'indiquait être incapable de travailler à côté d'un de ses collègues qui jouait avec son stylo et mangeait des amandes toute la journée. Ces bruits lui semblaient insupportables, alors même que la plupart des gens de l'open space ne semblaient pas les remarquer. Les personnes hautement sensibles trouvent souvent que la musique est trop forte, que la luminosité est trop intense, ou elles ne supportent pas certaines odeurs ou le contact de certaines matières sur leur peau. Chez les personnes hautement sensibles, on observe des réactions intenses, plus intenses que la moyenne, aux stimulations de notre environnement, qu'elles soient olfactives, gustatives, auditives, visuelles ou tactiles. Donc, première caractéristique, un seuil de détection sensorielle bas. Une petite stimulation olfactive, auditive, visuelle, qui nous paraîtrait moyenne, va être extrêmement difficile à vivre pour une personne hautement sensible. Par exemple, une étude de 2016 a montré que les femmes hautement sensibles ont plus de difficultés à supporter les cris de nourrissons, ce qui serait dû à une activation plus forte d'un réseau neuronal émotionnel qui impliquerait l'amygdale. Pour rappel, l'amygdale est une structure cérébrale qui est notamment impliquée dans le mécanisme de peur. Par ailleurs, une équipe de recherche finlandaise a étudié le cerveau des personnes sensibles et a découvert un volume de matière grise plus important dans des zones situées autour des lobes temporaux, régions qui ont un rôle dans l'analyse des sons et l'apparition des émotions. Toutes ces recherches semblent établir le fait que les personnes hautement sensibles détectent plus rapidement les stimulations de leur environnement. Deuxième caractéristique est la tendance à être rapidement débordé par les stimulations. On va parler de débordement sensoriel et émotionnel. Les bruits et les odeurs d'un bus bondé peuvent provoquer une vague d'anxiété qui va submerger l'individu hautement sensible. Ce qui ressort de mes échanges avec des personnes hautement sensibles, c'est l'impression de ressentir beaucoup plus d'émotions que leur entourage. Ce constat empirique semble être confirmé par les recherches de la professeure Acevedo de l'Université de New York. cette chercheuse a réalisé une expérience pour voir si les zones du cerveau s'activaient de manière différente chez les personnes hautement sensibles. Le principe de l'étude, des individus devaient observer des photos de leurs conjoints exprimant différentes émotions. Certaines photos exprimaient de la joie, de la tristesse ou de la colère. À l'aide d'un IRM, la neuroscientifique a pu observer une activité plus intense chez les personnes hautement sensibles dans les zones du cerveau liées à l'intégration sensorielle, la conscience et l'empathie. Pour vous donner un peu plus de détails, l'aire liée à l'intégration sensorielle dans le cerveau est un réseau complexe de régions cérébrales qui travaillent ensemble pour traiter et fusionner les informations provenant des différents systèmes sensoriels, comme la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Ces résultats, qui devront être confirmés par d'autres recherches, peuvent nous permettre d'émettre l'hypothèse que les personnes hautement sensibles ont une capacité plus importante que les autres à ressentir les émotions de leurs conjoints. Nous avons donc déjà vu deux caractéristiques. 1. Un seuil de détection sensorielle bas. 2. Une tendance au débordement sensoriel et émotionnel. Troisième caractéristique, une sensibilité plus importante à l'expérience esthétique.
J'ai un fond de sensibilité que je n'arrive pas à étouffer. Lorsque je vois une abeille porter le pollen de fleurs en fleurs et perpétuer ainsi la vie, j'ai presque les larmes aux yeux.
C'est exactement ce que décrit Jean-Paul Belmondo dans cet extrait. J'ai eu un patient qui m'a raconté s'être mis à pleurer à chaudes larmes alors qu'il observait un coucher de soleil sur la plage avec des connaissances. Interloqué, les gens autour de lui ont tous pensé qu'il avait des difficultés dans sa vie et lui n'a jamais osé les contredire, par peur de paraître ridicule. Ce patient, comme beaucoup, s'en voulait d'être aussi sensible car sa sensibilité était souvent désagréable au quotidien. Je lui ai donc un jour posé la question suivante. Et si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer votre niveau de sensibilité pour éviter les tracas au bureau ou dans votre vie sociale, que feriez-vous? Sa réponse fut claire. Je ne ferai rien, car cette sensibilité lui avait offert les plus beaux moments de son existence. Cette sensibilité esthétique, ce goût pour la beauté, peut d'ailleurs être un formidable outil de résilience. Je pense à une patiente, une femme dépressive de 70 ans que j'ai vue et qui m'avait partagé souffrir terriblement du monde, mais que seule la beauté, l'expérience de la beauté, réussissait à la maintenir à flot. L'expérience esthétique, offerte par un tableau ou une musique, faisait partie pour elle des meilleurs outils thérapeutiques pour l'aider à se lever chaque jour et se battre contre sa dépression. La question que vous vous posez sans doute, comme souvent, c'est d'où viennent ces différences entre les personnes hautement sensibles et les autres? Est-ce lié à l'éducation ou à la génétique? Comme souvent, les deux, mon général. Une étude de Hassari sur plus de 2800 jumeaux semble indiquer que près de 47% de nos variations de sensibilité auraient une cause génétique. Pour résumer, il y a donc trois caractéristiques qui distinguent les personnes hautement sensibles des autres individus. Un seuil de détection sensorielle bas, la tendance à être débordé par les stimulations sensorielles et émotionnelles, et la sensibilité à l'expérience esthétique. Certains travaux scientifiques mentionnent une quatrième caractéristique des personnes hautement sensibles, la capacité à percevoir des changements imperceptibles. Cette théorie part du principe que les personnes hautement sensibles remarqueraient davantage les changements subtils dans leur environnement. Ce n'est bien sûr pas lié à un super-pouvoir, une vision ou une ouïe ultra-développée, mais simplement parce que leur attention est facilement happée par les changements, les variations dans l'environnement. Cette caractéristique les conduit à être meilleurs, par exemple, pour reconnaître une forme qui se cacherait dans un nuage de points. Le chercheur Sklar de l'Université de Jérusalem a réalisé une expérience dans laquelle les participants portaient un casque de réalité virtuelle qui leur projetait une image différente pour chaque œil. L'œil gauche observait une image colorée, quand l'œil droit voyait progressivement apparaître un visage. Pour les participants, l'objectif était d'envoyer un signal dès qu'ils reconnaissaient un visage. Résultat de l'étude, plus le degré de sensibilité des participants était élevé, plus leur détection du visage était rapide. Les personnes hautement sensibles réagiraient donc plus rapidement aux changements visuels. Dans le même esprit, il serait également indiqué que les personnes hautement sensibles auraient tendance à surestimer le niveau de désordre de leur maison. Quand on sait que la thématique du ménage fait partie des premières causes de conflits dans le couple, On peut imaginer qu'un couple formé d'une personne hautement sensible et d'une personne d'une sensibilité dans la moyenne peut être parfois sujet à quelques tensions. Si on sort de la détection visuelle, d'autres travaux semblent indiquer que les personnes hautement sensibles parviendraient à identifier une voix dans le brouhaha de plusieurs conversations. Ces travaux sur la capacité des personnes hautement sensibles à percevoir des micro-changements et isoler des sons m'ont fait penser à un jeu développé par les comiques Kian Kojandi et Navo, les auteurs de la série Bref, le multi-blind test. Le principe de ce jeu ? Réussir à identifier le nom de plusieurs musiques diffusées en même temps. C'est comme un blind test classique, mais avec 4 musiques en même temps. Je vous propose de faire l'expérience de votre capacité à isoler chacun de ces sons. Je vais donc diffuser 4 chansons en même temps, pendant une dizaine de secondes, et votre mission, si vous l'acceptez, va être de me donner le nom des 4 chansons, et par la même occasion de tester votre hypersensibilité. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Alors, avez-vous réussi ? La liste des chansons, Funky Town de Limps Inc., Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman, Jaja de Aya Nakamura et I Will Survive de Gloria Gaynor. Si vous en avez 3, vous êtes excellent, et si vous en avez 4, vous êtes un génie du multi-blind test. Point important, si les personnes hautement sensibles sont meilleures pour isoler des sons, elles sont également bien plus rapidement submergées par une telle surstimulation sensorielle. L'exercice du multi-blind test est donc très fatigant pour elle. Si vous êtes hautement sensible et épuisé par ce jeu, c'est donc bien normal. Je referme cette parenthèse ludique car le multi-blind test n'est pas un test scientifique pour évaluer une haute sensibilité. Mais dans notre prochain épisode, je vous partagerai une échelle de mesure scientifique de la haute sensibilité traduite par des chercheurs français et qui vous permettra d'évaluer votre niveau de sensibilité. Nous explorerons également les situations dans lesquelles une haute sensibilité peut être un atout et les nombreux dangers qui guettent les personnes hautement sensibles. Enfin, nous évoquerons des stratégies pour apprendre à bien gérer un haut niveau de sensibilité. À bientôt pour le prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez évidemment pas de vous inscrire à la page Instagram, LinkedIn ou Facebook. Et surtout, surtout, si ce n'est pas déjà fait, ce serait génial si vous pouvez prendre une minute pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou une autre application de podcast.